l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aspect 94.1.
Soyez les bienvenus, bonjour à toutes et à tous, présence midi en direct jusqu'à 13h, nous sommes très heureux de vous accompagner en ce lundi. Il était plus de 100 recteurs et laïcs engagés au service des sanctuaires catholiques à se retrouver début 2026 à Paris. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier pour l'Église en France, le phénomène des catéchumènes. À Pâques 2025, plus de 10 000 adultes ont été baptisés et on dit qu'ils pourraient être encore plus nombreux en 2026. Pour nous en parler, nous recevrons le recteur du sanctuaire de Lourdes, le père Michel Dauban, répondra aux questions de David Torchala dans un instant. Et pour illustrer ses propos, nous recevrons à 12h30 justement un jeune Raphaël qui a été baptisé à l'âge de 20 ans. Il a été baptisé le 19 avril 2025. Il va nous raconter son parcours au micro de Mathias Terrier. Ce sera dans l'émission de Passage à Lourdes à écouter aux alentours de 12h30. Au cœur de ce magazine, comme tous les jours, c'est l'actualité régionale avec les titres à la une. Les titres sont présentés aujourd'hui par Kevin Mouveau, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Face à la faim et aux inégalités dans le monde, le CCFD Terre Solidaire invite chrétiens et citoyens à la prière, à la réflexion et à l'action, en alertant sur nos modes de consommation et les impacts sur la planète. Une nouvelle bergerie pour grandir. À Armont-Éco, Lucie Fernaud lance une cagnotte en ligne pour construire un bâtiment en bois local et développer son élevage de brebis solognotes, passé de 5 à plus de 40 animaux. Prendre soin de ses reins, un geste simple mais vital. À Toulouse, des dépistages gratuits sont proposés toute la semaine place Saint-Georges, permettant à chacun de vérifier sa santé en une quinzaine de minutes seulement. Les peluches prennent rendez-vous à l'hôpital. Les enfants de maternelle viennent faire soigner leur doudou à l'hôpital des nounours et découvrent en s'amusant le parcours des soins médicaux. Art et solidarité se donnent rendez-vous à Albi. L'université pour tous propose croquis en direct, expositions, conférences sur Monet et Tombola, au profit de l'épicerie solidaire du campus INU Champollion. L'actrice Alexandra Lamy parcourt l'Occitanie pour présenter le film Compostelle. Tourné en partie en Aveyron et Lozère, avec plusieurs avant-premières avant sa sortie nationale prévue le 1er avril. Après une blessure à l'ischio et une rechute, le duathlète Émile Blondel-Herman retrouve pleinement la forme et s'impose ce matin à Blagnac, une semaine après sa victoire sur le même parcours à Auch.
Merci Kevin Mouveau. Voilà, je rappelle que vous êtes étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On vous retrouve dès 12h30 pour développer ces titres dans le journal. La suite de ce Présence Midi, comme tous les lundis, c'est avec l'actualité du sanctuaire de Lourdes. David Torchala reçoit aujourd'hui le père Michel Dauban, recteur du sanctuaire de Lourdes.
Présence à Pamiers, 100.2.
Ils étaient plus de 100 recteurs et laïcs engagés au service des sanctuaires catholiques à se retrouver à Paris au début de l'année 2026 à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour le congrès des sanctuaires catholiques. Cette rencontre s'est inscrite dans un contexte tout à fait particulier pour l'Église de France. Je veux parler du phénomène, on peut dire spectaculaire, des catéchumènes à Pâques. En 2025, plus de 10 000 adultes ont été baptisés, précisément 10 384, soit une augmentation de 45% par rapport à 2024. En 10 ans, leur nombre est passé de 3 900 à plus de 10 000, une progression de plus de 160%, et on dit qu'ils pourraient être encore plus nombreux en 2026. Dans ce contexte de renouveau qu'on pourrait qualifier peut-être d'inattendu, les sanctuaires apparaissent souvent comme des lieux d'étape décisifs dans ces parcours de conversion. Pour en parler, nous sommes avec le père Michel Dauban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes recteur du sanctuaire de Lourdes. Vous avez évidemment participé à cette rencontre du congrès des sanctuaires. Vraiment, ce congrès intervient dans cette période étonnante pour l'Église de France, qui est marquée par cette explosion des baptêmes d'adultes. Comment, selon vous, les recteurs ont-ils interprété ou interprètent-ils ce phénomène?
Les recteurs dont je suis ont été touchés par une présentation de cette situation que vous venez de décrire, avec le fait que incontestablement tous ces chercheurs de Dieu, dont certains vont aller jusqu'à demander les sacrements de l'Église chrétienne, vont à un moment donné de leur parcours passer dans un sanctuaire, et incontestablement cela ne peut que modifier, nous inviter à approfondir nos propositions pastorales pour s'adapter, pour répondre à leurs demandes.
Et peut-être avant d'approfondir ce franchissement de cette porte d'un sanctuaire pour ces catéchumènes, est-ce que vous pensez, selon vous, est-ce que c'est un frémissement, j'ai envie de dire, passager, ou est-ce que vraiment on assiste en France à un basculement spirituel plus profond ?
Je pense que d'abord c'est la conséquence du fait que un certain nombre de bébés, d'enfants aujourd'hui ne sont plus baptisés dans les premiers mois, les premières années de leur existence, et donc de fait, y compris parfois dans des familles qui sont proches de la foi chrétienne, il y a cette demande de pouvoir recevoir le baptême. Et puis ensuite, alors effectivement, je pense que sans pour autant évoquer le siècle spirituel dont parlait André Malraux, qui du reste était le 20e et pas le 21e, on peut dire que la situation du pays, du monde, de la société d'une manière générale, suscite un certain nombre de questions, d'interrogations, voire peut-être de peur, de crainte, et de fait, oui, il y a une recherche existentielle qui est peut-être plus forte qu'il y a quelque temps, où de fait tout allait tout seul et on n'était pas forcément invité à se poser des questions profonde sur le sens de la vie.
Cette recherche spirituelle, elle se traduit souvent d'abord par une approche par les réseaux sociaux. Il a été dit dans ce congrès que près des trois quarts de ces néophytes passent par les réseaux sociaux avant de franchir la porte d'une église, d'un sanctuaire. Est-ce que vous, à Lourdes, en tant qu'observateur, on peut dire quand même de la vie de foi en France et d'ailleurs d'autres pays, est-ce que vous les voyez, vous, arriver, ces jeunes?
Alors effectivement, donc les trois quarts de ceux qui aujourd'hui frappent à la porte de l'Église pour demander ces sacrements de l'Église chrétienne passent par les réseaux sociaux. Donc il y a une première approche avec une personnalité qui va délivrer un message, qui va livrer toute son émotivité, qui va livrer son propre témoignage et qui va inviter à se poser des questions de fond qui fait que de fait ils vont passer à telle ou telle étape d'ailleurs de leur parcours spirituel dans un sanctuaire tel que celui de Lourdes. Alors est-ce qu'on les voit? C'est pas écrit sur leur front qu'effectivement ils sont en quête spirituelle, mais de fait dès lors que on est dans un centre d'accueil, d'information, dès lors que on participe à un groupe d'écoute de ceux qui ont envie de livrer quelque chose de leur vie, dès lors que on est confesseur, dès lors que l'on est animateur ou prêtre dans l'équipe de la pastorale des jeunes, on écoute et on voit bien toutes ces demandes multiples de la part de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, c'est pas forcément uniquement que des jeunes. Je retiens d'un apport de ce congrès des sanctuaires catholiques que de fait la barrière entre les jeunes et les moins jeunes dans ce monde que on vient de décrire, elle est quelque part obsolète. Voilà, on peut très bien se poser les mêmes questions à arriver à la retraite qu'à 20 ans.
Est-ce que vous pensez que les portes d'un sanctuaire sont plus identifiables que celles d'une paroisse aujourd'hui?
Ce qui est certain, c'est que Lourdes est connue nationalement et mondialement parlant. Donc de fait, dès lors que l'on vient dans les Pyrénées et qu'on veut aller vers les stations de ski l'hiver et puis pour faire de la randonnée l'été, quand on voit le panneau indicateur Lourdes, je pense que beaucoup savent ce qu'est Lourdes. Et de fait, même si on n'en connaît pas beaucoup plus, par simple curiosité au départ, on a envie de s'arrêter. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, dans la mesure où les paroisses sont de plus en plus grandes, sont des roulements d'anciennes paroisses canoniques, de fait, on peut très bien habiter dans un lieu et ne pas savoir du tout où est sa paroisse, où est le presbytère, où on pourra trouver un prêtre. Et de fait, il y a une visibilité du sanctuaire qui est intéressante, qui est déterminante et qui nous engage d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il faut engager dans un processus, dans une démarche qui ne s'arrête pas au sanctuaire, mais qui au contraire va évidemment se prolonger pour toujours inviter à profiter de la vie de l'Église dans toute sa richesse.
Vous êtes en train de dire qu'il ne faudrait pas seulement finalement donner à l'accueil de ces personnes la fiche horaire des messes du jour, mais peut-être poser la question où en êtes-vous dans votre foi.
Alors, il y a deux paroles absolument déterminantes qui nous ont été données à l'entrée d'un sanctuaire. D'abord, c'est bonjour, avec un beau sourire, parce que, bon, hélas, on est tous humains et c'est pas toujours évident. Et deuxièmement, c'est où en êtes-vous, où en es-tu de la foi chrétienne? Voilà, ne pas hésiter à aller au cœur d'une question qui est enfouie dans la personne, mais qu'on a intérêt à faire émerger tout de suite pour aller à l'essentiel et ne pas perdre de temps, voire même parfois ne pas passer à côté. Parce que il faut susciter, c'est l'intérêt de deux désirs qui peuvent se croiser. C'est le désir de la personne qui est vraiment en quête de Dieu, et puis le désir de tous ceux qui sont engagés dans le sanctuaire, en l'occurrence, de partager ce trésor qu'ils ont à proposer à tous.
Et puis aussi peut-être de conseiller du coup la personne qui est là sur peut-être un temps court, de vivre peut-être la célébration qui lui correspond le mieux.
D'aller à l'essentiel dans une célébration et puis peut-être aussi dans un temps de partage avec quelqu'un qui va être à même d'écouter dans un monde où on le sait bien, c'est une évidence de le dire, il y a de moins en moins de lieux pour se livrer et donc pour être vraiment écouté, pour avoir l'impression d'avoir été vraiment écouté.
Et si la question venait à dire je voudrais être baptisé? Lourdes est quand même un lieu vocationnel, fort, on le sait, un lieu de révélation, d'apparition. Qu'est-ce qui se passe quand on pose cette question à Lourdes, tu voudrais être baptisé?
Oui,
Lourdes n'est pas une paroisse.
Alors Lourdes n'est pas une paroisse et Lourdes ne s'est jamais lancée et n'est pas prêt à se lancer et ne souhaite pas se lancer dans une préparation et célébration au sacrement de l'initiation chrétienne. Pour la bonne et simple raison que les personnes qui viennent à Lourdes n'habitent pas là. Et donc de fait on est renvoyé dans sa vie quotidienne et donc on est renvoyé dans une vie chrétienne qui va s'inscrire dans une temporalité. Et donc le fait de pouvoir, fort de l'expérience vécue à Lourdes, être plus motivé et aller s'adresser effectivement à son diocèse, à sa paroisse, c'est ce qui permettra de poursuivre le cheminement.
Les jeunes adultes, c'est ce que il ressort certainement de ce congrès, ont deux envies, deux points importants, c'est vivre des émotions et en même temps avoir des repères assez structurés sur les questions de foi doctrinales, j'ai envie de dire. Comment on arrive à Lourdes à conjuguer ça entre l'émotion d'un temps d'expression de la foi personnelle et puis un temps d'enseignement, de catéchèse solide?
Ah ben le sanctuaire de Lourdes comme bien d'autres, comme tous, je pense, je suppose, j'espère, allie à la fois un certain nombre de propositions de prières, de célébrations, et en même temps de catéchèse. Alors il y a les processions, la procession eucharistique de l'après-midi, la procession mariale au flambeau du soir, et de fait, à côté, j'allais dire, de cette piété populaire, passer à la grotte pour vénérer le rocher, aller boire de l'eau, aller à la fontaine et s'y laver, éventuellement aller se baigner aux piscines, allumer un cierge. Il y a aussi ces temps de catéchèse tous les jours dans le sanctuaire. Il y a cette catéchèse de 16h15 en français, je ne parle pas des autres langues, pour approfondir le message de Lourdes. Telle ou telle demande qui nous est formulée, nous sommes très très heureux avec l'ensemble des chapelains de les honorer pour répondre à telle ou telle demande, pour répondre à tel ou tel sujet. Les deux sont vraiment fondamentaux, dans une dimension d'initiation et aussi dans une dimension de relecture de ce qui aura été vécu avant. Vous êtes allé à la grotte, vous allez allumer un cierge. Pour nous, chrétiens, la symbolique du cierge, elle est fondamentale parce que c'est votre prière qui monte vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous éclaire et qui est la lumière du monde. Le rocher, vous êtes allé au rocher, mais au-delà du fait de toucher le rocher, parce que c'est le lieu des apparitions, le rocher, pour nous, c'est le Christ, en reprenant une catéchèse sur les psaumes. Bref, nous avons tout ce qu'il faut pour développer une catéchèse ample et forte, et il faut le faire, c'est fondamental.
Accueillir ces catéchumènes, c'est les accueillir aussi peut-être avant la messe. On a l'habitude, dans l'Église, souvent, de faire des temps d'accueil après la messe. Ça veut dire, quelque part, c'est juste pour vous faire sourire, mais c'est bousculer un peu nos habitudes. Est-ce que le sanctuaire est prêt pour ça, de lancer dans une écoute peut-être encore plus personnalisée que ce qu'il nous propose aujourd'hui, de bénir de manière beaucoup plus prolongée les objets de piété? Est-ce que, dans des petits gestes simples, quelle porte d'entrée catéchuménale peut prendre le sanctuaire?
Alors, je pense que la problématique que vous évoquez n'est pas tout à fait la même dans le sanctuaire de Lourdes, avec les 4 millions de pèlerins qui sont venus l'année dernière dans le sanctuaire, et puis la paroisse lambda qui va avoir une célébration eucharistique où il y aura 200 ou 300 personnes à la messe du dimanche matin, où de fait il est beaucoup plus facile de mettre en place un nombre de propositions concrètes pour mettre en place un café, pour mettre en place un pique-nique partagé après la messe aussi, enfin bref, d'inscrire la célébration dans un ensemble qui est plus large. Dans le sanctuaire de Lourdes, c'est quand même plus difficile, mais de fait nous essayons au maximum de diversifier les propositions pour honorer toujours à la fois l'écoute, la convivialité. C'est forcément ce qui se vit beaucoup dans les pèlerinages, mais les pèlerinages constitués, donc écoute, convivialité, prière, c'est un ensemble d'éléments auxquels nous sommes attentifs lorsque nous recevons des pèlerins, mais des pèlerins individuels, comme on le dit, dont font partie ces catéchumènes. Ils peuvent très bien rester 2 heures un après-midi, donc c'est un temps aussi très très bref. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une image d'accueil, et une fois de plus, bonjour et où êtes-vous de la foi, autrement dit accueillante, humaine, sympathique, fraternelle, et en même temps d'enseignement, parce que on cherche aujourd'hui, dans un monde fluctuant et où on ne sait plus qui est qui fait quoi, que dit l'Église sur tel ou tel sujet, il faut le dire, et il faut le dire très clairement, dans la liberté qui est celle des enfants de Dieu.
Quand on marche dans le sanctuaire et qu'on est près de groupe, on entend très souvent cette phrase: le vrai pèlerinage commence quand vous rentrez chez vous. Comment faire pour que le pèlerinage de Lourdes ne soit pas qu'une parenthèse, mais vraiment un point de départ dans une
habitude? Alors, moi, je pense que le vrai pèlerinage, il a déjà commencé dans le sanctuaire de Lourdes, c'est clair. On sait ce que c'est qu'un pèlerinage, en alliant une fois de plus des temps de prière, de procession, etc., etc. Ce que cette phrase veut dire, c'est que de fait, si le pèlerinage est une coupure dans la vie et que aussitôt après, on reprend ce qui était aussitôt avant, avec un certain nombre de moyens à se donner, ça va perdre son sens, ça va perdre sa saveur assez vite. Donc, c'est quels sont les moyens que l'on se donne donne pour chercher à avoir une vie chrétienne individuelle et communautaire plus intense. Après, moi je dirais aussi avec humour que le vrai pèlerinage, il se poursuit le jour où on revient à Lourdes. Parce que, de fait, toutes les propositions du sanctuaire, elles sont à même de toujours approfondir sa foi chrétienne. Il y a la dimension d'enseignement avec la doctrine, comme vous l'avez enseigné. Il y a la partie de service mutuel des frères et la charité active et qui se vit particulièrement avec le service des malades et des personnes handicapées. Et il y a cette espérance qui est toujours renforcée dès lors que on approfondit à la fois cette foi et cette charité. Et de fait, cet approfondissement de ces trois dimensions qui sont nos trois vertus théologales, c'est à poursuivre tout au long de la vie et on n'est jamais au bout. Donc, il faut venir à Lourdes, il faut en repartir, il faut y revenir, aller aussi évidemment dans d'autres sanctuaires, mais surtout accorder une place particulière au sanctuaire de Lourdes pour grandir toujours dans la foi.
Merci beaucoup, Père Michel Dauban.
Avec plaisir.
À une prochaine fois.
Présence à la Capelle Marival, 97.7.
Voilà, merci au Père Michel Dauban, recteur du sanctuaire de Lourdes, et merci également à David Torchala qui a réalisé cette interview. Justement, pour illustrer ses propos, dans un instant, nous allons recevoir un jeune Raphaël qui a été baptisé dans sa paroisse à l'âge de 20 ans. C'était le 19 avril 2025, il y a moins d'un an. Il va nous raconter son parcours au micro de Mathias Terrier dans l'émission De Passage à Lourdes. Et dans un instant, c'est également Kevin Mouveau qui revient pour le journal régional à partir de 12h30.
Dans la planète Terre, mes plaies saignent de l'encre de perles sur un paquet de feuilles. Je m'adonne la nuit quand mes idoles s'endorment. Certains souhaitent qu'à mes obsèques ce soit ces textes que l'on entonne. Nos mains agiles agissent dans l'argile. Mes yeux au bord des lèvres chuchotent des propos fragiles. J'aime chanter mes sentiments, j'ai des pensées sémantiques. Les rêves immenses d'un homme vivant. Nos mains agiles agissent dans l'argile. Mes yeux au bord des lèvres chuchotent des propos fragiles. J'aime chanter mes sentiments, j'ai des pensées sémantiques. Les rêves immenses d'un homme vivant. J'analyse l'évidence, j'ai quitté le silence. L'air est lancé, les mots dansent dans ce récit écrit dans ma résidence. Les si rendent indécis, je m'élance. Marie m'est si lente, je sirote les syllabes. Marie, ma fiancée, l'assonance est confidentielle. La messe est immense, rassurante, je suis moins seule. Les sujets sont denses, nos vies sans nuance. Ma vie s'est nuance, ensevelée dans un linceul.
C'était le chanteur Ozam avec sa chanson Le Songe. Allez, assure dans un instant, c'est Mathias Terrier, son invité pour son émission hebdomadaire de passage à Lourdes. Il va recevoir à Raphaël, mais pour le moment, c'est Kevin Mouveau qui nous rejoint pour le journal régional. Kevin qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour l'actualité régionale.
Bonjour à toutes et à tous. Face à la faim et aux inégalités dans le monde, l'appel à l'engagement des chrétiens. À l'occasion du carême, l'organisation catholique CCFD Terre Solidaire invite à la prière, à la réflexion et à l'action. Depuis 65 ans, ce collectif soutenu par l'Église agit contre la pauvreté et les injustices. Il accompagne aujourd'hui près de 500 projets dans 69 pays, dont la France. L'objectif, alerter l'opinion et interpeller les décideurs sur les causes de la faim, mais aussi sur nos modes de consommation et leur impact sur la planète, notre maison commune. Un appel aux dons pour faire grandir une ferme. À Armont-Écho, la jeune éleveuse Lucie Fernerode a lancé une cagnotte en ligne pour construire une nouvelle bergerie. Installée depuis 2021 avec son compagnon Théo Marzin, elle élève des brebis solognotes et développe la vente directe. Son troupeau, passé de 5 à plus de 40 brebis, manque aujourd'hui de place. Le couple espère récolter jusqu'à 20 000 euros pour bâtir un nouveau bâtiment en bois local et poursuivre ce projet agricole. Prendre soin de ses reins, un geste simple qui peut sauver des vies. À Toulouse, des dépistages gratuits sont proposés toute la semaine sur la place Saint-Georges. L'opération « Un rein, c'est pas rien » menée par France Rein et la clinique Saint-Exupéry s'inscrit dans la semaine nationale du rein. Le test, gratuit et sans rendez-vous, dure une quinzaine de minutes. Jusqu'à 350 dépistages pourront être réalisés chaque jour, alors qu'en même France, près de 5,7 millions de personnes souffrent d'une maladie rénale, souvent sans symptômes. Toujours à Toulouse, les peluches prennent rendez-vous à l'hôpital. L'Association des étudiants en médecine de Toulouse organise du 9 au 13 mars 2026 la nouvelle édition de l'Hôpital des Nounours. Les enfants de maternelle amènent leurs peluches dans un hôpital reconstitué pour découvrir les soins et se familiariser avec le milieu médical. L'objectif, réduire l'effet blouse blanche et favoriser le lien soignant-soigné. Solidarité et culture au programme à Albi. L'Université pour tous du Tarn organise mardi une soirée au profit de l'épicerie solidaire du campus INU Champollion avec le soutien de Secours Populaire Français. Au programme croquis en direct de l'artiste Sofia Isleva, proposé en don libre, puis une conférence d'Annières consacrée au célèbre Nymphéa de Claude Monet. Une tombola solidaire permettra aussi de remporter des œuvres originales. Le cinéma à la rencontre du public en Occitanie. L'actrice Alexandra Lamy entame une tournée régionale pour présenter en avant-première le film Compostelle. Plusieurs projections sont prévues notamment à Espalion, Conques, en Rouergue, Rodez ou encore Cahors. Le long-métrage tourné en partie en Aveyron et en Lozère sortira dans toute la France le 1er avril. L'histoire suit la rencontre entre un jeune rappeur et une femme sur le chemin de Saint-Jacques. Le retour gagnant d'un champion. Enfin, après une blessure à l'ischio et une rechute, le duathlète Émile Blondel-Hermand retrouve la forme. Installé à Colomiers, il s'est imposé ce matin sur le 10 km de Blagnac en 30 minutes 25. Et après 2 minutes d'avance. Une semaine plus tôt déjà, il gagnait à Auch. Des succès encourageants pour l'athlète de 31 ans qui vise une saison avec un retour durable en équipe de France de duathlon.
Merci Kevin Mouveau, voilà, et Kevin qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info dans une demi-heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour toute l'actualité nationale et internationale. Pour le moment, direction Lourdes et le sanctuaire de Lourdes avec Mathias Terrier et son émission De Passage à Lourdes.
Présence
De Passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité, notre témoin dans cette émission est Raphaël. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
À 20 ans, on peut dire que votre vie bascule, peut-être dans une nouvelle ère, une nouvelle dynamique. Vous avez été baptisé le 19 avril 2025.
C'est ça.
Félicitations.
Merci beaucoup.
On est très heureux pour vous. Vous allez nous raconter ce parcours.
Oui.
Comment vous en êtes venu là? Alors même que on peut dire que vous n'avez pas eu de transmission familiale sur ce terrain du baptême ou de
la foi catholique. J'étais pas prédisposé à arriver à la conclusion de me faire baptiser, c'est sûr.
Vous voyez plein de signes dans votre vie. Vous nous direz aussi comment vous vous sentez guidé quelque part. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous vous sentez bien dans vos baskets? Vous faites quoi dans la vie?
Honnêtement, je pense que c'est depuis très récemment que je peux dire que je vais franchement bien. C'est un sentiment de paix. Évidemment, la foi est quelque chose qui se travaille en continu. Mais comment dire, ce travail de foi m'a donné vraiment un confort, une paix intérieure que je n'ai pas trouvé, disons, dans ma vie pré-catéchuménat, en tout cas, on peut le dire. Et j'avais besoin, en tout cas, d'ordonner cette vie parce que je sentais que la société nous amène vers une vie un peu désordonnée ça m'a apporté vraiment un confort, une paix.
Donc vous vous sentez bien?
Oui.
Vous êtes opticien?
Oui, c'est ça.
Bien dans votre métier?
Je suis bien dans mon métier. J'ai trouvé une manière, en tout cas, d'aimer mon métier encore plus.
C'est-à-dire?
Durant mon parcours de catéchuménat, j'ai mon accompagnateur, Antoine Calapier, qui m'a conseillé le parcours Zachée. C'est quelque chose d'assez connu. Et il y avait un épisode qui m'a beaucoup intrigué, qui parlait du fait d'être acteur de la création. C'est vrai que dit comme ça, enfin, pour quelqu'un qui est fraîchement dans l'église, ça pouvait. J'étais un peu. Je comprenais pas trop la question. Et en fait, ça a pris tout son sens dans l'idée de trouver un sens à son métier, notamment, et même à comprendre comment les autres personnes peuvent être acteurs et actrices de la création. Donc moi, ça peut être avec une activité en dehors de magasin, sage-cabinet, en tant qu'opticien. Ça peut être en allant s'occuper de personnes en situation de handicap, comme de seniors.
C'est-à-dire que vous allez leur régler la vue, les lunettes.
C'est ça. Sur du temps libre, mais je trouve, enfin, ça a donné vraiment un sens à mon métier. Peut-être qu'un jour, j'ai pas pour vocation de vivre de ça parce que j'ai aucun aspect financier avec ça. C'est ce qui m'a notamment, ça a contribué à ma paix intérieure. Mais ça m'a beaucoup aidé justement à aimer mon métier. Parce qu'un métier notamment de commerce, bah, des fois, ça peut être compliqué d'être en phase avec ce métier dans le sens où on doit à la fois être humain, mais penser aux commerçants. Et c'est vrai que j'ai plus l'approche humaine. Et c'est aussi pour ça que j'ai continué mes études après les études d'opticien en allant dans la santé, parce qu'on se rapproche plus du côté humain du métier. Et voilà.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes en paix, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'on peut reprendre un peu les éléments de votre parcours? À 20 ans, vous diriez que finalement, heureusement que cette idée du baptême a surgi dans votre existence pour remettre de l'ordre. C'était désordonné à ce point avant?
On peut dire que c'était assez désordonné, effectivement. Disons que j'ai eu la chance... dans des moments de solitude où, enfin, j'ai été indépendant assez jeune et j'ai eu le réflexe de penser à Dieu, de prier, alors même que je n'étais pas baptisé et que j'ai jamais fait de catéchisme, etc. Et je me suis dit, mais pour que ça vienne instinctivement, ça m'avait déjà donné des pistes de, ça peut pas venir de nulle part. Et suite au décès de mon grand-père, j'ai eu un vrai déclic qui m'a poussé le soir même à aller à l'église, et j'ai rencontré les personnes qui géraient le catéchuménat.
C'est votre grand-père qui vous avait transmis quand même quelques rudiments de la foi.
Disons que il m'a pas éduqué énormément là-dessus, mais en tout cas il m'en a parlé parce que mon grand-père étant espagnol, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré en Espagne. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui l'importait beaucoup, mais il n'avait pas la volonté de l'imposer. Et je pense que c'est là que j'avais déjà compris un peu le côté de on sème des petites graines dans la tête des personnes. Par exemple, je pense à ma petite sœur Cassandra qui n'est pas baptisée et rien qu'en parlant tout à l'heure, je l'ai appelée en étant devant Lourdes, etc. Je lui parle de comment on s'occupe des malades, etc. Et je pense au fait que c'est des petites graines qui après ça sera à elle hein, et sa foi intérieure de les faire germer. Mais on m'a planté ces petites graines et je les ai fait pousser au moment où je l'ai senti. Voilà.
Donc on verra aussi tout à l'heure ce que vous vivez à Lourdes, parce que c'est la première fois que vous venez en pèlerinage à Lourdes. Le catéchuménat a duré une année et demie.
C'est ça.
Donc c'est un temps durant lequel vous aviez essayé de comprendre si ce chemin était le bon pour vous, apprendre les rudiments de la foi, vous plonger dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là, Raphaël ? Une Église vieillissante, rabougrie, parce que c'est l'image qu'il y a parfois, hein, et qui peut-être est justifiée d'une certaine façon. Enfin.
Ce qu'on m'avait raconté de l'Église, mais même des personnes étant catholiques, hein, qui allaient à l'Église, etc. Je suis dans une ville qui s'appelle Neuilly-sur-Seine, où on me disait, là-bas, il y a que des têtes blanches. Et au début, j'avais pas compris ce que c'était des têtes blanches. Et j'avais compris après qu'ils parlaient de personnes âgées.
Qui sont grisonnants au niveau des tempes et parfois même plus. Oui.
C'est ça. Et ouais. Au final, je me suis rendu compte qu'il y avait une mixité dans l'âge assez impressionnante. Et il y a notamment un système hors été où il va y avoir plusieurs messes. Par exemple, il y a une messe qui est plutôt dédiée aux personnes assez jeunes, où il y a, par exemple, des instruments de musique, etc. Parce que les enfants font beaucoup de bruit, donc ils aiment bien un peu le côté instrument, où du coup, les jeunes parents y vont. Après, on va avoir les messes traditionnelles, 11h, 19h, et même des repas qui s'organisent après les messes, entre, par exemple, 18-25 ans, 25-35 ans, ou même une plus large gamme d'âge. Et du coup, ça a été un peu un cliché dont j'avais peur, dans le sens où j'avais peur d'avoir un décalage avec les têtes blanches, disons. Et au final, ça n'a pas été le cas.
Ce que vous découvrez aussi, c'est le catéchisme de l'Église.
Oui.
Parce que lorsque la personne qui vous accompagne, c'est Antoine, je crois.
Oui, c'est ça.
Vous dit, lis ça.
Ouais, il savait que il m'avait prévenu que c'était quelque chose de costaud parce que c'est pas quelque chose qu'on conseille à beaucoup. Enfin, je suis une des rares personnes, j'en connais pas beaucoup.
Peut-être
qu'on commençait par ça.
Que vous étiez exigeant et que vous aviez besoin de.
J'ai une approche.
Tout ce corpus,
c'est ça. C'est venu instinctivement. J'ai quand même une approche un peu intellectuelle, rationnelle, même si c'est quelque chose qu'on peut trouver d'irrationnel, de la foi. Et j'avais besoin de ce cadre dans notamment la lecture. Et je trouvais que le catéchisme de l'Église catholique, notamment la doctrine sociale de l'Église, nous donne un cadre assez. C'est vraiment top. Si on a le cerveau solide et qu'on a un peu de temps, franchement, c'est top parce que ça, j'ai l'impression que ça a vraiment remis. Ça m'a fait une page de A à Z de quel cadre se donner et comment je veux évoluer, quel point je veux travailler, etc.
Donc ça a été tout ce chemin que vous parcourez. Vous vous sentez bien tout de suite dans l'Église, dans une Église. En fait, c'est ça aussi que vous ressentiez.
Alors il y a le côté beaucoup de sentiments. Je ressens vraiment la famille, l'Église comme une famille. Ça m'a vraiment, par exemple, mon parrain, je pourrais clairement le considérer comme une figure limite paternelle. Il m'a beaucoup apporté.
C'est Antoine qu'on salue.
C'est ça, Antoine Clapier que je salue. Et même le côté frère et sœur, c'est vrai qu'on entend beaucoup quand on est extérieur de l'Église, frère et sœur, on comprend pas trop parce qu'on pense nous à notre famille. Pourquoi ils disent frère et sœur ? Et en fait, on est réunis sur un même socle et c'est les relations les plus saines que j'ai jamais eues de ma vie parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un de malsain. Qui vient dans la démarche de se faire, par exemple, baptiser, ou qui vient à la messe toutes les semaines, même des fois tous les jours, etc., qu'on rencontre comme ça dans l'Église. On s'apporte mutuellement, et je ressens honnêtement cette approche de frère et sœur. Et je me plais vraiment dans cette idée-là.
Donc, lorsque vous commencez ce chemin, vous avez déjà le réflexe de prier, vous êtes déjà en attente, tout est ouvert, au fond, pour que vous fassiez... Toutes ces étapes, vous les accomplissiez les unes après les autres.
C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est chacun a sa manière de prier. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a des personnes qui ont déjà des horaires pour prier, etc. Et moi, là où j'avais beaucoup de mal, c'est pour prier, fréquemment. J'avais l'habitude de prier quand j'avais besoin de me livrer, mais que ça soit dans la joie comme dans la tristesse. Parce que c'est important, faut pas prier juste pour dire ah je suis triste, etc. Non, faut remercier, etc. J'ai pu apprendre, ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a honnêtement, un an de catéchuménat, c'est déjà assez court, hein. Ça m'a même prendre 2 ans, même plus, pour des personnes qui n'ont pas forcément un socle de base. Parce que c'est important d'avoir des bases solides, de faire un choix en toute conscience. J'ai appris à prier. Par exemple, c'est, j'y pensais pas forcément, mais moi, ce qui m'a donné beaucoup de soutien pour prier fréquemment, c'était de prier dans, enfin, les gens ne le voyaient pas, mais je priais dans le métro en allant au travail. Le matin, parce que comme je travaillais beaucoup, c'est vrai que le soir je rentrais, j'étais lessivé, je dormais, le lendemain je me réveillais, métro, boulot, dodo, et au final j'avais trouvé ma joie, ma paix en priant, en intellectualisant la prière en silence, et maintenant je la fais à voix haute, etc. Ça, c'est, on grandit, on s'adapte un petit peu, mais c'est pas, je suis pas arrivé. Et je savais direct prier, parce qu'on m'a quand même donné, par exemple, remercier. J'avais plus l'habitude de remercier que de demander de l'aide. Enfin, de l'aide, en tout cas, de
oui, me d'avoir plaindre. Un peu de lâcher prise et de dire j'ai besoin de aussi de, c'est ça. D'être aidé, accompagné. Ouais.
J'avais du mal à me plaindre. C'est bête. J'étais tellement reconnaissant envers. Déjà Dieu de la paix qui m'apportait, que je me sentais mal de me plaindre pour des petites choses qui pouvaient arriver comme des grandes. Et au final, on se sent tellement bien quand on a ces deux aspects un peu balance de je fais l'état de ma journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? De quoi j'ai pas été fier? Comment m'améliorer? Voilà.
Merci Raphaël de rester avec nous. On marque une pause dans cette émission et puis juste après, nous continuons ce dialogue avec vous. Vous qui avez reçu le baptême, donc cette année 2025, le 19 avril, en l'église Saint-Pierre,
c'est ça.
Paroisse Saint-Pierre.
Paroisse Saint-Pierre.
Paroisse Saint-Pierre. À tout de suite.
À tout de suite.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio, www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence. De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Vous avez reçu le baptême et on peut dire que ça, c'est un changement de vie pour vous.
Oui.
Alors ce changement de vie a été inauguré d'une certaine façon dans toute la période catéchuménale. La question qu'on se pose, vous qui êtes même pas recommençant, qui êtes converti, qui avez même cette fraîcheur du converti, comment ça vous lie à ceux que vous connaissiez, à votre entourage, ou comment aussi ça vous a décalé d'une certaine façon? Est-ce qu'on vous prend pour un drôle d'individu qui rentre dans un parcours incompréhensible?
C'est vrai que il y a beaucoup de, en tout cas, par exemple, des amis que j'ai qui sont assez jeunes, enfin, comme mon âge, donc une vingtaine d'années, il y a un peu une vision un peu rustique, un peu moyenâgeuse des fois quand on parle de religion. Enfin, en tout cas, dans l'idée de croire est moins compliquée à assimiler pour beaucoup de personnes, mais par contre, le côté d'aller à la prière, par exemple, tous les dimanches.
Aller à la messe tous les dimanches.
Aller à la messe tous les dimanches.
Vous y allez tous les dimanches.
Tous les dimanches. Je trouve que c'est un indispensable. En tout cas, je conseille à tout le monde de le faire. Même des choix, plus compliqués du style, par exemple, une vie de chasteté qui est, on l'oublie, mais c'est quand même quelque chose d'assez central au final. Et je pense qu'il y a un vrai décalage. Ça les a un peu choqués, mais ça les a à la fois choqués et en même temps ils se sont dit ça doit forcément être un hyper important pour Raphaël, pour un tel, etc. Pour faire cette démarche là de changer, j'ai changé sur beaucoup d'aspects de ma vie.
Mais tout de même, Raphaël, vous avez quitté votre petite amie la veille de la Semaine Sainte, c'est ça?
Oui.
Ça pose question. On se dit mais si son chemin vers le baptême rompt les relations avec son entourage, il se passe quelque chose qui peut être interprété comme négatif.
J'avais un peu la prétention, l'orgueil au début de me dire je suis quelqu'un de plutôt, je pêche pas beaucoup, enfin dans le sens où je suis quelqu'un d'assez sage, je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis un pêcheur comme tout le monde et je pêche sur beaucoup de choses et j'avais cette vision de vie désordonnée. Et j'ai eu, par exemple, notamment dans la vie de couple, un réel décalage. J'ai senti que j'avais besoin d'une page blanche, mais sur plein de, par exemple, des caractères que j'avais, j'ai changé sur plein d'aspects, même le travail, etc. J'avais une vision du travail Moi, si je pouvais travailler 7 jours sur 7, je travaillais 7 jours sur 7. Alors que même dans la genèse, il y a un jour de repos.
Et donc, tout ça a changé dans votre vie.
Oui.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a amené notamment vers cette paix que je travaille.
On peut dire que vous étiez en rupture familiale.
Oh, oui. Oui.
Sur ce plan-là.
Disons.
Où en êtes-vous?
Ma famille est au courant que je me suis fait baptiser. J'ai pu voir à quoi ressemblait un baptême avec la famille, etc., de par les catéchumènes avec lesquels je me suis fait baptiser, et c'était très très joli. Notamment ma sœur, avec j'ai repris contact avec elle depuis quelques temps, et je lui parle de mon parcours, et elle a pas pu se déplacer à ce moment-là, etc., mais je pense qu'il y a un peu cette demande de... En tout cas, nous, c'est à la fois on est missionné pour ça, un peu le côté évangélisé, etc.
Oui, vous voulez annoncer ce que vous avez reçu.
C'est ça, c'est tellement beau, ça m'a tellement apporté. Que...
Même avec un peu trop de zèle, parfois, non?
Bah oui. Il y a beaucoup de gens qui...
En tout cas, ça vous a permis de renouer avec votre sœur, votre petite sœur. Enfin, c'est en ça tout, qui vous avez eu cette envie.
Quelque chose de très important qu'on nous enseigne, c'est par exemple honore ton père et ta mère, et il y a plein de gens qui ont des parcours familiaux plus ou moins faciles, ouais. Et avec Antoine on se disait mais
enfin, comment j'honore mon père et ma mère,
c'est ça alors que je les respecte énormément parce que c'est quand même mes parents, ils m'ont donné la vie, etc., mais comment pardonner s'il est arrivé, il y a des personnes à qui il est arrivé des choses plus ou moins compliquées avec leurs parents, et ça peut être difficile de pardonner. Et en fait, on se sent tellement bien, on est libéré une fois que c'est arrivé. Et il faut penser à quelque chose. C'est honore par exemple ton père et ta mère. C'est pas forcément reprendre contact quotidiennement avec eux. Ça peut juste être envoyer un message. S'ils ne répondent pas, ils ne répondent pas. Mais moi, j'ai ouvert mon cœur et je ne suis plus en colère avec ça. Je suis en paix avec ça. Et ça, c'est aussi pour ça que je suis en paix aujourd'hui, parce que j'ai pu mettre à plat beaucoup de choses dans ma vie. Et j'en ai encore à mettre à plat, et c'est ça la beauté aussi.
Donc vous vous sentez un peu plus acteur de la création, vous honorez votre père et votre mère, ne serait-ce que par la pensée, la prière,
oui.
Hein, et puis être en paix avec tout ça. Parlons maintenant de Lourdes. C'est votre premier pèlerinage à Lourdes, dans le cadre du pèlerinage national de l'Assomption, avec cette belle famille assomptionniste, hein, et en particulier auprès des personnes en situation de fragilité et de maladie. On a le sentiment, en vous écoutant à plusieurs reprises, que la question de la fragilité, du soin, de l'empathie, de la proximité avec l'autre, c'est assez central, en fait, dans votre relation humaine.
Ça demande quelque chose qui n'est pas forcément facile. C'est à la fois mettre son ego de côté, être humble, se mettre au service des autres. Et c'est quand je parlais du parcours Zaché tout à l'heure, c'est une question que je me suis posée. Comment une personne, par exemple, qui ne peut pas parler, bouger, comment elle est actrice de la création? Alors qu'au final, de par mon parcours de catéchuménat, je me suis rendu compte que il y a rien de plus beau. Enfin, toutes ces personnes qui se mobilisent autour d'eux, ça ne serait pas.
Et cet échange qui naît de.
Mais oui,
la
il
relation.
Nous apporte tellement. De manière égocentrique, on peut penser que c'est nous qui les aidons. Mais il nous apporte tellement. Je pense à Fabrice là, dont je m'occupe cette semaine, qui a un autisme assez sévère, etc. Il peut pas communiquer, en tout cas par la parole, mais il m'apporte tellement. Il est hyper actif, etc. Mais ça se voit, il est heureux à la fois d'être là. C'est leur moment dans l'année, et il faut pas se dire que parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler, ils ne comprennent pas. Ils sont heureux d'être là. Ils sont heureux que des gens se mobilisent, parce que quand je vois le regard de personnes qui regardent des personnes, par exemple, en situation de handicap dans la rue, hein, à Paris, etc., on peut avoir des fois un regard un peu étrange, un peu surnaturel. Enfin, il y en a qui peuvent penser, par exemple, à des sous-hommes, entre guillemets, alors que non, pas du tout. Et Lourdes est vraiment dans cette démarche de les remettre au centre. Et je trouve ça magnifique. Je suis très content d'être venu à Lourdes. J'ai rencontré beaucoup de... J'avais peur en venant à Lourdes qu'il y ait beaucoup de têtes blanches. Et au final...
Et puis vous aviez peur aussi, je crois, de la dimension assez touristique, enfin, du
c'est
monde,
ça.
Des commerces,
de
tous les établissements de services que sont les hôtels et autres. Bon, qui sont nécessaires au demeurant.
Qui sont nécessaires, qui sont
pour accueillir toutes ces personnes.
J'avais un peu une vue d'un mauvais œil de tout ce qui était commerce et tout. Je me disais, mais c'est pas forcément le lieu. Et au final, je me rends compte que tout le monde, bien qu'ils viennent en tant que touristes comme pour aider, bah, ils sont là dans la démarche de venir à Lourdes. Donc déjà, c'est magnifique et c'est important de discuter avec eux comme avec des personnes qui aident. Et c'est la beauté de Lourdes aussi. Oui. Une mixité.
Donc vous diriez que pour être dans le cheminement après votre baptême, venir faire ce service et rendre ce service à Lourdes, auprès de Fabrice. Hein,
c'est ça.
Oui, en l'occurrence, c'est Fabrice qui vous accompagnait. En fait, ça consolide encore votre démarche.
Ah oui. Bah, de toute façon, je pense que personne, une fois baptisé, n'a plus, enfin, c'est pas, on est baptisé, on a un tampon, et voilà, je veux au paradis, je sais pas, il y en a, ils disent ça, par exemple, aller à la messe, c'est quelque chose de central, et je pense que le pèlerinage est quelque chose de central aussi dans sa foi. Comment, je pense que c'est le meilleur moment, même si on, par exemple, quand on aide, faut pas oublier la démarche de s'introspecter, enfin, de penser à soi aussi, de se balader dans la grotte, etc. C'est hyper important. Il n'y a pas plus beau moment. J'ai rencontré quelqu'un qui a enchaîné un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a marché pendant 35 jours, qui après a enchaîné avec Rome, et là qui enchaîne avec Lourdes. Et il fait ça, il s'est dit cette année, j'ai envie de les enchaîner. Et je trouve ça trop beau. Et on voit, il est vraiment parti avec plein de questions. Et il le sent et ça se voit, il est apaisé, il a pu s'introspecter de A à Z, en tout cas à l'instant T, et il est vraiment hyper heureux de soi, et moi je suis heureux aussi d'être là.
Alors Raphaël, si on faisait juste un peu le point, vous partiez dans la vie avec peut-être quelques difficultés familiales, vous réussissez bien dans vos études, vous devenez opticien, vous avez une licence je crois même.
Oui c'est ça.
La profession, c'était hyper important. Et vous voici maintenant baptisé après un beau parcours de catéchuménat. Qu'est-ce qui s'ouvre devant vous? Qu'est-ce qui est devenu central? Qu'est-ce qui a changé complètement dans votre perspective?
Alors, j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup au travail, de par le fait que j'ai commencé à travailler assez jeune. J'aime beaucoup le travail et j'avais une perception du travail où plus je travaillais, plus j'étais content. Et au final, par exemple, en utilisant mon temps libre pour utiliser une autre facette de mon travail, ou en travaillant plus 7 jours sur 7, par exemple, mais en attribuant, par exemple, le dimanche pour la messe, etc. Ça m'a donné un cadre que je compte développer. Notamment, j'étais prédestiné, disons, à partir à l'étranger. Là, très fréquemment, enfin, c'est vraiment tout.
Vous
frais.
Avez une proposition de, c'est ça, ça de fait, travail à l'étranger.
Ça fait un mois et demi qu'on en discute, que j'ai des appels, et le jour même, c'était dimanche dernier, le jour même où on m'envoie le contrat, on me dit, bravo, vous êtes sélectionné, voici, l'offre.
Et vous avez dit non.
Au début, je comptais aller dire non, et je vais à la messe, et j'ai le Père Santis, qui est vraiment une super personne, qui me propose d'aller dîner. Et du coup, on dîne, je lui explique, on se parle de nos vies respectives et tout, et je lui raconte que je viens d'avoir le contrat. Et en fait, il me fait comprendre, et c'est, il m'a pas obligé, c'est moi qui ai écouté ses arguments et ça m'a touché profondément, que je veux vivre mon néophyta dans ma paroisse et avoir des bases solides après mon baptême, parce que c'est un socle dans la vie, enfin, c'est vraiment central. Travailler à l'étranger, je peux le faire dans 2 ans, comme dans 5 ans, comme.
Donc vous restez là.
Je reste là, dans la joie. Hein. Dans la joie, c'est pas un regret justement. Ma sœur me disait, faut pas que je regrette le choix, etc. Parce que c'est quand même des belles propositions. Mais je suis en paix avec cette décision. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait et j'ai hâte de voir, par exemple. Le Père Santis m'a parlé d'un livre, Les Confessions de Saint-Augustin. Il m'a dit, lis ça, c'est parfait pour, quand il voyait la vie, par exemple, des jeunes d'aujourd'hui, etc., la société d'aujourd'hui. Lis ça et tu vas voir que vous n'êtes pas seul. Tout le monde n'a pas eu une vie directement disons, avec un minimum de péché, sans la vie de couple, etc. Et Saint-Augustin en est le parfait exemple, et je l'ai lu, et j'ai trouvé qu'en fait, chacun pouvait trouver, bah, par exemple, ses livres, ses versets, ses psaumes. J'ai quelqu'un dans l'église, dans ma paroisse, qui aime beaucoup les psaumes, il est fan de ça, il se retrouve beaucoup dans ça. Chacun trouve son petit élément qu'il préfère.
Bon, ben voilà votre conseil de lecture. Le conseil de lecture de Raphaël, en cette fin d'émission, c'est lire les Confessions de Saint-Augustin.
C'est ça.
Tout un programme. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous.
Et puis, on vous souhaite un bon pèlerinage à Lourdes.
C'est ça.
Saluez bien Fabrice pour nous, tout votre entourage, tous ceux qui vous ont accompagnés. Et bon vent pour la suite.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Présence
de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, nul ne pouvait les compter, de toutes nations, peuples et langues, debout devant le trône de l'agneau, vêtus de
source de la vie.